Bonsoir, comment allez-vous? Histoire de génération. Mes parents trouvaient que je couvais ridiculement mes enfants. Pourquoi, par exemple, les accompagnions-nous jusqu'à l'école alors qu'à 6 ans, il suffisait de les jeter dans le métro avec deux claques pour les réveiller et que s'ils se perdaient, ma foi, ils finiraient bien par se retrouver. De la même manière, je suis sidérée à l'heure actuelle de voir un père couper sa crêpe à un garçon de 10 ans ou de voir un bébé habillé comme pour une expédition polaire alors qu'il fait 22 degrés dehors. Mais je me tais, ce qui pour moi est difficile. J'ai pourtant failli l'ouvrir cette semaine quand j'ai vu dans un magasin de chaussures une petite fille d'un an environ, super mignonne, qui jouait toute seule par terre. Elle avait trouvé un jouet merveilleux, la vieille basket abandonnée là par son père pour en essayer de nouvelles. J'imaginais les immondices qu'avait dû écraser cette chaussure avant d'arriver entre les mains de l'enfant. Quand elle s'est mise à retourner la douteuse godasse, à l'admirer et à en lécher la semelle avec délectation.
Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 6 ans et je voudrais savoir si un microbe est malade, peut être malade. Merci.
Quelle drôle de question vous pose Gabriel. Philippe Charlier, médecin légiste, archéo-anthropologue et auteur de l'autopsie des morts célèbres édité chez Talendier. Un microbe peut-il être malade? C'est de la graine de médecin, lui.
Mais c'est en tout cas une très très bonne question.
Ah, elle vous plaît.
Elle me plaît beaucoup parce que il faut imaginer que il y a de l'infiniment petit, plus petit que nous en permanence. On est sur la Terre. Nous, nous sommes des humains, on est contaminés par des bactéries, à l'intérieur des bactéries, il y a des virus, et j'ai pas envie de dire ainsi de suite, mais c'est vraiment un peu comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres. Donc oui, Gabriel, les bactéries peuvent être malades, elles peuvent être contaminées soit par d'autres bactéries, soit par des champignons, soit par des virus, ce qui est assez fréquent. Il y a notamment un virus qu'on appelle le bactériophage qui vient les contaminer et qui finit par les perturber et par les détruire. Et on se rend compte qu'il y a une sorte d'histoire naturelle avec une imbrication d'un peu toutes les formes de vie les unes avec les autres. Les virus peuvent rentrer dans nos cellules humaines, les cellules qui tapissent les alvéoles de tes poumons, les cellules qui sont au niveau de la muqueuse de ton nez, par exemple. Tu t'en rends très vite compte quand tu as un rhume ou quand tu as une infection au niveau des poumons ou une bronchite, ce que je ne te souhaite pas. Et puis, ces bactéries également peuvent être pénétrées par ces virus et ainsi être complètement perturbées, voire mourir.
Vous pouvez réécouter cette question sur franceinter.fr. Ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons, entre autres, en combien de temps a été construit le château de Versailles. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir quand les arbres sont adultes, s'ils continuent à pousser ou s'ils s'arrêtent. Voilà.
Belle voix, Maëlle. Les arbres adultes continuent-ils à pousser? Ernst Hirscher, vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences, enseignant-chercheur. Que pensez-vous de la question de Maëlle?
Très bonne question et qui oriente le regard sur des détails très très importants. L'arbre adulte, ça veut dire qu'il a atteint sa taille maximale. Ça dépend de la fertilité de l'endroit, de la qualité des sols. Disons 20 mètres, 30 mètres. Et cet arbre atteint cette dimension après peut-être une cinquantaine d'années. Et ensuite, il n'est pas condamné à tout de suite arrêter de croître. Il va donc cesser sa croissance en hauteur et va continuer sa croissance en épaisseur.
Ah, comme moi.
Beaucoup d'humains voient ça comme un problème. Chez les arbres, c'est un atout extrêmement intéressant parce qu'ils croissent en diamètre. Donc, une fois qu'ils ont atteint une certaine taille, ils ont passé de la croissance végétative, ils ont ajouté à la croissance végétative, où il n'y avait que de la végétation, des feuilles, mais pas encore de fleurs et de fruits et de graines. Ils ont ajouté la croissance générative, en plus du végétatif. Donc il y a des bourgeons à feuilles et des bourgeons à fleurs qui sont formés. Donc on a dans l'arbre adulte, brusquement, la floraison, la fructification. Mais la croissance végétative continue.
Ah ouais, et c'est pas rien.
Là, c'est extrêmement intéressant parce que la croissance en épaisseur, ça dépend des arbres et de leur longévité, n'est pratiquement pas limitée. Donc, il peut devenir très, très épais. Le plus vieillif d'Europe a une hauteur peut-être d'une dizaine de mètres. mais il a atteint un diamètre de presque 6 mètres. Donc la croissance en largeur ne s'arrête pratiquement pas.
Et en plus, c'est une espèce d'usine à produire quelque chose qui va alimenter la forêt toujours, toujours, toujours.
Absolument. Et ça, c'est la force de l'arbre. Le but de l'arbre, c'est pas de faire les choses seulement pour soi-même, c'est aussi dans l'intérêt du sol, la communauté végétale de la forêt, c'est de faire des sols de plus en plus riches, de plus en plus profonds, et toute cette biomasse qui est produite grâce à la fabrication des racines qui vont aussi mourir une fois, ou bien les branches mortes, les feuilles mortes, tout ça alimente les sols, rend les sols de plus en plus riches, qui ont aussi un processus de maturation. Et les sols forestiers sont extrêmement intéressants et c'est eux qui ont été utilisés pour l'agriculture.
Les vieux aident les jeunes chez les arbres, on pourrait en prendre de la graine sans jeu de mots. Ernst Zürcher kiffe les ifs. Vous pouvez retrouver les références de ses livres sur le site des Petits Bateaux. À propos d'arbres, nous les arbres, c'est le nom de l'exposition que vous pouvez voir à la Fondation Cartier à Paris jusqu'au 10 novembre.
Ravi, cher ami. Jamais je te tournerai le dos, posé à tes côtés. Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mots magiques. Des réponses à nos questions. Si je suis largué, maintenant je sais. Je pourrais poser ma main sur ton épaule. Logique, organique.
C'était Malik Djoudi en duo avec Étienne Dao. Jolie chanson sur l'amitié, jolie rencontre d'artistes que ces deux-là.
Les Petits Bateaux sur France Inter.
Avez-vous déjà visité le château de Versailles? Marjorie de Voucoux a emmené des jeunes voir le château de Versailles parce qu'elle trouvait que c'était quelque chose de très beau et de très intéressant. Et les enfants à qui elle voulait montrer ça ont été éblouis par les autocars qui étaient devant.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans et j'ai une question. En combien de temps on a construit Versailles? Est-ce que c'était le roi qui décidait des plans ou bien c'était des architectes? Merci, au revoir.
Vaste question pour vous, Mathieu Davigna, historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. En combien de temps on a construit Versailles, demande Léa, et qui décidait, le roi ou les architectes?
C'est vrai que c'est une importante question, Léa. En fait, le château de Versailles s'est construit en très 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 longtemps. Alors, on dit souvent qu'il a coûté très cher, mais c'est de l'argent qui s'est étalé sur très longtemps. Alors, le château de Versailles, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est assimilé à Louis XIV. Mais il faut rappeler que c'est son père, Louis XIII, qui avait d'abord construit un premier petit château qui était une sorte de relais de chasse au début des années 1620 et qui était si petit que tout le monde se moquait de ce château. On disait que c'était pas assez royal, alors il l'a fait reconstruire quelques années plus tard.
Reconstruire, agrandir ou reconstruire?
Agrandir, reconstruire, il l'a plutôt fait agrandir au début des années 1630. Et c'est à partir de ce château des années 1630 que Louis XIV va s'y intéresser au début des années 1660 et va l'agrandir pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc à partir de 1660, Louis XIV va commencer à agrandir le relais de chasse de son père. Et ça va prendre à peu près 50 ans pour avoir les proportions qu'on lui connaît aujourd'hui.
Mais c'était pas un chantier, c'était habité pendant ce temps.
Alors c'était habité, mais en chantier. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une construction qui se passait juste à côté de vous, on murait. C'est-à-dire que vous entendiez les bruits, il y avait de la poussière, etc. Le roi vivait dans une pièce, et dès que la pièce d'à côté était terminée, on démurait. Et au fur et à mesure, donc, il faut savoir que lorsque le roi vient s'installer à Versailles en 1682, les mémorialistes nous disent « quoi qu'il fût encore rempli de maçons ». Et on a la pauvre dauphine qui était enceinte, donc on est au mois de mai 1682, elle doit accoucher en août, et on sait qu'elle arrive dans un appartement qui sent encore la peinture, et elle demande à changer immédiatement d'appartement, donc elle va dans l'appartement de Madame Colbert, la femme du ministre, pour accoucher. Donc on voit que le roi ne ménage absolument pas sa cour, y compris sa famille. Donc on a un chantier permanent jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Donc c'est insupportable pour les courtisans.
Et enfin, qui décidait, le roi ou les architectes?
Alors, il y a un dialogue permanent entre le roi et les architectes, même si le roi, évidemment, a beaucoup d'idées. C'est-à-dire que Louis XIV, il adore l'architecture. Et il corrige les plans des architectes. Donc on lui présente des plans,
déjà, ce qui est
il
pas
les
mal.
Comprend. Et il les corrige, il demande des aménagements immédiatement, c'est-à-dire que, par exemple, on a l'image de Jules Hardouin-Mansart, qui est l'architecte très connu de Louis XIV, qui apporte un plan, et il a mis tant d'appartements. Et Louis XIV lui dit « Non, moi j'en veux 44 ». Et donc, Jules Hardouin-Mansart repart avec son petit plan et revient le lendemain, où finalement, dans l'aile qui est prévue de construire, il y aura 44 appartements. Et Louis XIV connaît parfaitement l'architecture, et on a des exemples où pendant la construction du Trianon, ce qu'on appelait le Trianon à l'époque, qui est le Grand Trianon, il voit qu'une fenêtre n'est pas totalement droite. Et le surintendant des bâtiments, qui est le marquis de Louvois, dit « Si, si, elle est complètement droite, etc. » Le roi maintient qu'elle n'est pas droite. Il fait amener un arpenteur qui mesure, qui vérifie, effectivement, la fenêtre n'est pas droite. Donc Louis XIV est très régulièrement sur les chantiers et contrôle tout. Donc c'est lui qui décide, même si évidemment les plans sont amenés par les architectes.
Pour poser une question au petit bateau, vous pouvez faire le 01 56 40 43 57, c'est un répondeur.
Je m'appelle Hector et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir en quelle matière sont faits les coquillages.
Hector vous demande, Jean Proulx, en quelle matière sont faits les coquillages. Et vous, les coquillages, c'est votre matière, justement. Vous êtes directeur du centre de recherche Ifremer de la Tremblade en Charente-Maritime.
Merci Hector pour cette jolie question. Alors les coquillages, ils font eux-mêmes leur matière, hein. C'est eux-mêmes qui fabriquent leurs coquilles. Hein. En fin de compte, c'est comme une petite carapace. D'ailleurs, la personne qui vend des huîtres, on appelle ça un écaillé. Hein. Ça veut dire qu'ils vendaient des écailles. Et à Paris, dans les années 1920, il y avait des femmes qui venaient de la côte, qui vendaient les huîtres dans la rue et qui disaient « à l'écaille, à l'écaille ». C'est-à-dire qu'elles ouvraient l'huître pour le chaland qui passait et elles le donnaient à manger, une huître, et on appelle ça une écaille. Donc l'huître, elle fabrique son écaille, elle fabrique on appelle ça aussi des valves. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du carbonate de calcium. On va appeler ça du calcaire. Hein, c'est une roche carbonate, c'est du carbone. Hein, ça utilise le gaz carbonique. Et puis le calcium, c'est un minéral. Et qu'est-ce que fait l'huître? Eh bien, elle prend dans l'eau de mer, quand elle mange, elle prend des substances, elle va les concentrer au niveau de certaines cellules, qu'on appelle les cellules du manteau. Et puis, elle va faire de la roche avec du carbonate, avec du calcium et avec un petit peu d'autre chose. Tous les jours, elle en fait un petit peu comme ça. Et elle va grandir comme ça. La coquille grandit En fin de compte, elle construit sa petite maison comme un escargot. Elle construit sa maison, puis après, elle remplit la coquille avec sa chair. Donc, elle grossit comme ça, progressivement, en construisant sa coquille.
C'est fou qu'un organisme aussi mou, aussi fin, aussi fragile qu'une huître, arrive à fabriquer quelque chose d'aussi épais, d'aussi dur, d'aussi opaque qu'une coquille.
Eh oui, c'est étrange, c'est comme ça. Ces animaux-là ont besoin de se défendre et sont un petit peu comme les noix de la mer. Hein. Une noix, c'est une coquille très très dure, puis à l'intérieur, il y a un joli fruit. Ben, l'huître, c'est la même chose, elle se protège énormément. Par contre, ce qui lui permet d'être transporté très très loin. Vous pouvez manger en Chine des coquillages qui sont élevés en France, crus et vivants. Et c'est ça qui est beau dans cet animal-là, c'est qu'il peut voyager alors qu'en fin de compte, toute sa vie, il était fait pour rester au même endroit sans bouger. Et c'est lui qui voyage le plus loin possible, qui voyage mieux que les poissons dans des caisses qui arrivent morts à leur destination alors que l'huître arrive toujours vivante. Donc c'est un bel animal, comme disait Léon-Paul Fargue. Manger une huître, c'est comme embrasser la mer sur la bouche.
L'huître est effectivement un produit merveilleux. Jean Prou nous parlait des écaillés. Si vous avez un moment, regardez la dextérité avec laquelle les écaillés et la vitesse avec laquelle ils arrivent à ouvrir les huîtres. Il y a un concours d'ouvreurs d'huîtres devant le restaurant La Coupole à Paris. C'est très très impressionnant. Costumi, The Cure, qui a fait un tabac au Festival Rock en Seine fin août. Cette année, ça a d'ailleurs bien requinqué le festival. 60 ans quand même. C'est pas mal pour un chanteur, pour un conducteur de bus aussi d'ailleurs. 60 ans et arriver à faire un concert aussi extraordinaire, ben chapeau.
Bonjour, je m'appelle Agathe, je me réunis et je voudrais savoir pourquoi les gendarmes se tiennent plus souvent deux par deux. Merci.
Agathe, bonsoir. Le son n'est pas bon, mais la question est bonne. Alors je la répète. Pourquoi, demandes-tu, Agathe, les gendarmes se tiennent souvent deux par deux? D'ailleurs, on va demander à Camille Chaise, qui est commissaire de police, si c'est souvent ou si c'est tout le temps.
Alors, policiers et gendarmes, c'est au minimum deux par deux, effectivement.
Toujours.
Toujours. Et c'est important de comprendre que policier ou gendarme, c'est pas un emploi, c'est pas un métier solitaire. C'est vraiment un travail d'équipe. Et pour ça, et pour pouvoir travailler en toute sécurité, il faut être au minimum deux. Alors des fois, les équipes seront à trois, voire sur des interventions compliquées, ils peuvent être 7, 8, voire une dizaine. Ça dépend de l'intervention et de ce que les policiers ou le gendarme va résoudre.
Et quand ils patrouillent, ils sont toujours deux, même si tout est calme pour le moment.
Alors, ils sont deux que ce soit à pied, ils sont deux quand ils sont à cheval, et ils sont deux quand ils sont en voiture aussi.
Ça a toujours été comme ça?
Alors, ça a toujours été comme ça, et même dans les missions de proximité, par exemple, quand on va voir un commerçant pour échanger avec lui. Le policier n'est jamais seul, parce qu'il peut avoir besoin d'intervenir en urgence. Alors, il a toujours sa radio portative avec lui, mais par mesure de sécurité, il a besoin d'être avec une autre personnes pour intervenir, au minimum deux et plus souvent trois.
D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi, Camille Chaise, la base de toutes les fictions, ce couple. Parce qu'il y a des couples célèbres de policiers ou de gendarmes, de très très fortes amitiés ou au contraire d'inimitié qui se transforment. C'est quand même, on sent une grosse base, hein.
Alors oui, il y a beaucoup de figures emblématiques, de binômes comme ça emblématiques, mais ce qu'il faut voir, c'est quand on travaille des journées entières avec la même personne, après on se connaît bien, et c'est important de bien se connaître en intervention. Par exemple, sur un contrôle routier, il y a des automatismes qui se créent, et les policiers savent exactement quoi faire et comment va réagir son collègue. Donc c'est important de travailler ensemble et de bien se connaître pour être plus efficace. Et une fois de plus, c'est aussi par mesure de sécurité pour le policier.
C'est quoi, Camille Chaise, une technique d'intervention classique, par exemple, le menottage, disons? Parce que ça, c'est spectaculaire.
Alors, c'est spectaculaire, mais c'est vrai que ça s'apprend à plusieurs. Souvent, le policier sait exactement déjà où sont rangées ses menottes. Il ne faut pas qu'il passe du temps à les chercher dans une poche ou dans l'autre. Et puis, par exemple, pendant qu'un policier va maintenir le délinquant qu'on interpelle, c'est l'autre policier qui va sortir ses menottes et menotter l'individu. Toutes les techniques d'intervention, finalement, on les apprend dans la police à deux ou à trois. Et c'est aussi pour ça qu'on patrouille à deux ou à trois, parce qu'on sait exactement ce que va faire son coéquipier et comment chacun va se positionner.
Et alors, comment sont faits les binômes, Camille Chaise? Ils se choisissent? Au début, ils ne se connaissent pas forcément?
Alors, dans chacune des brigades de police secours, ils sont environ une dizaine. Donc souvent, ça marche par amitié. Les gens se connaissent et s'apprécient. Donc les binômes se forment un petit peu au jour le jour selon les tableaux. C'est plutôt en police judiciaire où là, on cherche des caractères qui sont différents. Parce que quand on auditionne un individu, il faut avoir des techniques différentes. Il faut être un peu rusé. C'est le policier ami et le policier plus ferme. Et donc, on prend souvent des caractères complémentaires pour pouvoir arriver à faire parler l'individu pour obtenir ses aveux.
C'est pas évident de travailler à deux, hein. À la radio aussi, on a ça. Soit en régie, soit en studio, il y a des couples arrangés. On s'est pas choisi. Peut-être comme autrefois, finalement, ces couples arrangés peuvent tenir très bien, très longtemps. Oui, il peut y avoir de l'eau dans le gaz assez vite. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux par franceinter.fr ou venir faire un tour sur notre site.